Vous écoutez Radio France Internationale, il est 21h en temps universel, 23h ici à Paris et à Rome.
Gali Bonin.
Rome, où le nouveau pape vient d'être élu, le cardinal Robert Francis Prévost devient Léon XIV, le premier pape américain de l'Église catholique. On vous emmène sur la place Saint-Pierre dès le début de ce journal. Et depuis l'annonce, les réactions à l'international s'enchaînent, parmi elles, celle du président américain Donald Trump, qui salue l'élection du souverain pontife originaire de Chicago. L'actualité, c'est aussi cette escalade des violences entre l'Inde et le Pakistan. Le conflit se rapproche dangereusement de la guerre, une guerre qui aurait des conséquences économiques importantes, surtout pour le Pakistan. Washington et Londres annoncent un accord commercial. Le premier ministre britannique se félicite d'avoir sauvé l'industrie automobile du pays. Et c'était il y a 80 ans, le 8 mai 1945, l'armée allemande du Troisième Reich déposait les armes. Pour l'occasion, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a publié une vidéo dans laquelle il dénonce la guerre menée par Vladimir Poutine aujourd'hui. Quatre petits scrutins, c'est tout ce qu'il aura fallu aux cardinaux pour choisir leur nouveau pape. Robert Francis Prévost, 69 ans, devient Léon XIV, le premier pape américain de l'histoire. Présenté comme un des cardinaux modérés, c'était un soutien discret de François. Une foule massive était stationnée place Saint-Pierre à Rome au moment où la fumée blanche s'est échappée de la cheminée de la chapelle Sixtine. Notre envoyé spécial, Nicolas Rocca, a rencontré des fidèles ému au moment de cette révélation.
C'est cette énorme charge qui lui tombe sur les épaules. Je pense à l'après-midi qu'il a dû vivre en voyant son nom qui sortait, ce qui a dû se passer dans son cœur. J'accepte, j'accepte pas, ma vie va être bouleversée. Et se dire la stature qu'il est en train de prendre d'un diocèse à la terre entière. Parce que catholique, ça veut dire universel, donc dans le monde entier.
C'est une grande joie. On a beaucoup d'espoir quand même, hein. Que les choses iront mieux dans le monde, hein, avec l'élection du nouveau pape.
Ça fait mon troisième conclave. Je suis venu pour Benoît, pour François et maintenant pour le prochain pape. À chaque fois que je viens, depuis 2005. Quand j'apprends la mort du pape, je prends l'avion pour aller me recueillir sur son cercueil dans la basilique. Après, à l'enterrement, et après pour le conclave, et après pour la messe d'installation du pape, qui se passe 7 jours. Après des allers-retours, parce qu'à l'enterrement, on ne connaissait pas encore la date du conclave. Donc je suis rentré en Alsace, je suis du Haut-Rhin, de Colmar, et je suis revenu hier.
Et voilà. Quelles sont vos attentes pour le prochain pape? Vous avez un espoir?
L'espoir, c'est faire confiance. Vrai, on ne peut pas avoir une rhétorique humaine parce que c'est des décisions divines et célestes. C'est l'Esprit Saint qui insuffle, comme vous le savez, au cardinal le nom du successeur de Pierre.
Lors de son premier discours, Léon XIV a lancé un vibrant appel à la paix pour tous les peuples. Et à l'international, c'est un déluge de réactions qui a suivi cette prise de parole. À Ramallah, le président palestinien souhaite au pape de continuer les efforts de paix entamés par François. Le président russe Vladimir Poutine se dit sûr qu'un dialogue constructif se poursuivra avec le souverain pontife originaire de Chicago. Mais le premier à avoir réagi publiquement, c'était le président américain Donald Trump. À Washington, la correspondance de Guillaume Naudet.
Félicitations au cardinal Robert Francis Prévost qui vient d'être nommé pape. C'est un tel honneur de réaliser qu'il est le premier pape américain. Quelle excitation et quel grand honneur pour notre pays. J'ai hâte de rencontrer le pape Léon XIV, ce sera un moment très significatif. C'est ainsi que Donald Trump souhaite la bienvenue au pape sur son réseau social personnel, la fierté nationale avant tout donc. Mais cela ne veut pas dire que les deux hommes s'entendront, car Robert Prévost, avant d'être pape, n'était pas proche de la droite américaine la plus extrême qui est aujourd'hui au pouvoir. C'est même tout le contraire. Dans ses plus récentes publications sur les réseaux sociaux, il s'oppose très ouvertement à l'administration sur la question des migrants et sur la politique d'expulsion. Il corrige même le vice-président J.D. Vance, un catholique qui est la dernière personnalité à avoir rencontré le précédent pape. J.D. Vance a tort, Jésus ne nous demande pas de hiérarchiser notre amour pour les autres, écrit le nouveau souverain pontife. La magasphère l'a bien compris, Laura Loomer, l'influenceuse d'extrême droite, souvent écoutée par le président, elle se targue même d'avoir fait tomber plusieurs têtes dans son entourage, répond directement à cette publication de Robert Prévost en le traitant de pape marxiste et woke. Guillaume Naudin, Washington, RFI.
Et pour la suite des choses, Léon XIV donnera sa première messe avec les cardinaux dans la chapelle Sixtine vendredi, c'est à 9h en temps universel. Il présidera aussi une prière dimanche matin depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre. Et il rencontrera finalement les journalistes au Vatican lundi matin pour un tout premier point de presse papal. Nouvelle escalade de tensions entre l'Inde et le Pakistan. Les deux pays s'accusent mutuellement d'avoir mené des attaques de drones. L'armée pakistanaise a annoncé avoir abattu 25 drones de fabrication israélienne envoyés par l'Inde. Ces attaques surviennent au lendemain de la confrontation militaire la plus violente entre les deux pays en 20 ans. Déjà empêtré dans un marasme économique, le Pakistan est celui qui aurait le plus à perdre en cas de nouvelle guerre, Anne Verdaghi.
Le pays sort d'une période très difficile. En 2023, le Pakistan s'est trouvé au bord du défaut de paiement. Depuis, il est sous perfusion de ses alliés. L'Arabie Saoudite, la Chine et les Émirats Arabes Unis lui ont fourni une aide de 12 milliards de dollars, condition sine qua non pour que le FMI consente à débloquer à son tour un prêt de 7 milliards de dollars. Mais le Pakistan reste très fragile. Il est encore aujourd'hui en quasi-faillite budgétaire et 60% des recettes de l'État vont toujours au paiement des intérêts de la dette. Dans une note publiée le 5 mai, l'agence Moody's prévenait déjà que toute escalade militaire avec l'Inde pèserait probablement sur la croissance du Pakistan et compromettrait les efforts du gouvernement pour amener le pays vers la stabilité macroéconomique. Des tensions persistantes pourraient aussi fragiliser l'accès au financement extérieur et effrayer les investisseurs, mais aussi mettre sous pression les réserves de change du pays qui restent encore insuffisantes pour assurer le paiement de cette dette, notamment vis-à-vis de la Chine, grand prêteur financier et investisseur au Pakistan.
Et à Washington, le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a appelé à une désescalade imminente. Le vice-président américain a toutefois dit que les affrontements entre l'Inde et le Pakistan n'étaient pas du tout l'affaire des États-Unis. Washington qui annonce un accord avec Londres, le premier depuis le début de la guerre commerciale lancée par Donald Trump. L'entente permet au Royaume-Uni d'échapper à la majorité des surtaxes américaines. En échange de quoi, le marché britannique va s'ouvrir davantage aux produits agricoles américains. Le gouvernement travailliste de Keir Starmer se félicite d'avoir pu sauver l'acier et les constructeurs automobiles britanniques, même si la nouvelle surtaxe de 10% imposée par la Maison-Blanche reste en place. Autre accord dans une guerre qui n'est pas commerciale. Après des semaines de négociations tendues entre Kiev et Washington, le Parlement ukrainien a ratifié jeudi l'accord sur les minerais. L'entente ouvre la porte des mines et des champs pétrogaziers ukrainiens aux compagnies américaines. En échange de quoi, une nouvelle aide militaire de la part des États-Unis est envisageable. L'accord ne comprend toutefois aucune garantie de sécurité, une des principales demandes de l'Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky vient de s'entretenir au téléphone avec Donald Trump. Il assure que l'Ukraine est prête à tous les formats de négociation pour la paix et Trump appelle à un cessez-le-feu inconditionnel de 30 jours. Un cessez-le-feu plus crédible, il l'espère, que celui décrété unilatéralement par Vladimir Poutine. Kiev assure que les troupes russes l'ont violé des centaines de fois depuis son entrée en vigueur. Le président russe avait promis 3 jours de trêve à l'occasion des 80 ans de la capitulation de l'Allemagne nazie. À Kiev, le président Volodymyr Zelensky a profité de cet anniversaire pour publier une vidéo dans laquelle il met en avant la résistance ukrainienne face à l'agression russe. Anastasia Becchio.
Un couple qui s'embrasse, une enfant qui mange une glace, des voitures qui roulent sur l'avenue principale de Kiev et la place de l'Indépendance. C'est dans ce cadre que le président ukrainien se filme avec un message destiné à souligner la différence avec le voisin russe qui s'apprête à célébrer en grande pompe les 80 ans de la victoire dans la Seconde Guerre mondiale.
Quelle est la différence entre eux, en Russie et nous? Toute la différence, la Russie en fait la démonstration chaque 9 mai. C'est la différence entre la vie sur la place de l'Indépendance et la parade de la peur sur la place rouge. Des colonnes de chars, des tueurs qui défilent en bloc. Ce sera la parade du cynisme, la parade du mensonge hargneux.
À l'occasion de la parade sur la place rouge, Vladimir Poutine a décrété une trêve de 3 jours déjà violée selon l'armée ukrainienne. Volodymyr Zelensky, qui souhaite un cessez-le-feu de 30 jours sans condition préalable, appelle à une plus grande détermination pour mettre fin à la guerre.
Il est impossible d'apaiser le mal. Nous devons le combattre ensemble, le combattre avec détermination, avec force, avec pression sur le terrain, dans l'arène diplomatique, dans l'espace économique, partout où c'est possible, pour que plus jamais cela ne se reproduise.
La vidéo se conclut sur une note d'espoir. Tout occupant finit par quitter notre terre, dit Volodymyr Zelensky, le ton grave. La vie reprend toujours.
Le compte-rendu d'Anastasia Becchio qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RFI dans un instant, Radio Foot International.